Bonjour, Thierry Louvel, directeur général de l'UNAPI, et Luc Gâteau, administrateur de l'UNAPI. Nous avons le plaisir de vous animer une petite table ronde sur handicap mental et travail, un levier pour la politique RSE des entreprises. On va essayer d'être rapide. Nous avons une demi-heure pour le faire. Juste un point de présentation. L'UNAPI, c'est une association qui fédère 550 associations sur l'ensemble du territoire français. Et pour ce qui concerne le travail protégé et adapté, gère 600 ESAT et 120 entreprises adaptées. Et principalement, cette fédération est animée par des parents d'enfants handicapés qui deviennent adultes, forcément. Et une grande partie de ces personnes handicapées ont une déficience intellectuelle, un handicap mental, et on est là pour vous en parler. Juste avant de vous expliquer ce que c'est, quelles sont les conséquences sur la déficience intellectuelle. Donc la déficience intellectuelle, c'est ce qui est à l'origine du handicap. Le handicap, c'est la résultante d'une déficience intellectuelle et de l'interaction avec l'environnement. Concrètement, dans la population handicapée mentale, on retrouve des causes génétiques. L'exemple le plus connu, c'est la trisomie 21. Il y a d'autres formes de trisomie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais il y a plusieurs types de trisomie, mais la trisomie 21 qui se focalise sur le chromosome 21. Et il y a d'autres origines que génétiques. Il y a des anomalies qui peuvent se provoquer au niveau du cerveau pendant la croissance, pendant la grossesse, et aussi juste après. Il peut y avoir ce qu'on appelle des anoxies cérébrales, c'est-à-dire le cerveau est privé d'oxygène pendant un certain temps et ça cause des dommages irrémédiables à tout ou partie du cerveau. Donc il y a deux origines, soit génétiques, soit, je dirais, accidentelle. Et puis, pour beaucoup de personnes handicapées mentales, on ne connaît pas encore l'origine précise de la déficience intellectuelle. Il y a plus de 700 000 personnes handicapées mentales en France. Et Luc Gâteau va nous expliquer un peu quelles sont les difficultés que ces personnes peuvent avoir, mais aussi leurs capacités.
Alors, oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis moi-même papa d'une adulte de 26 ans, trisomique 21 à l'origine, et avec troubles de comportement au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des troubles qui peuvent s'y associer au fil du temps. Alors, c'est des difficultés, comme vous le voyez, d'abstraction, d'espace. On n'a pas tout à fait les mêmes notions d'espace et de temps, entre autres, aussi. Difficulté de savoir ce que c'est qu'un lundi, mardi, etc. C'est important. L'espace-temps de la journée. La mémoire, effectivement. Alors, ce n'est pas tout à fait toujours vrai parce qu'ils sont extrêmement dans le rite. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est inscrit tout jeune, eh bien, ça va rester, ça. Moi, mon enfant, s'il a pris son habitude de s'habiller de telle manière, bon, c'est des choses que vous allez retrouver facilement. Et puis, c'est aussi ce que disait Thierry à l'instant, différent de la maladie mentale. Qui n'a pas tout à fait les mêmes origines, qui peut parfois se traiter, alors que la trisomie 21, ben, vous l'avez, j'ose dire, toute la vie. C'est quelque chose qui. Peut passer là-dessus. Alors, toutes les conséquences de cette déficience, c'est parfois des capacités à assurer des prestations sans défaut. L'implication et la motivation forte dans le travail, oui, ça c'est un trait très prenant. Vous avez un taux d'absentéisme très très faible chez les travailleurs, disons, avec un handicap mental, parce que c'est important. C'est important de se lever à la même heure, d'aller au travail. C'est vraiment un respect très fort et c'est vraiment important pour eux. Le souci de la qualité, oui, une fois qu'ils ont bien acquis qu'ils doivent faire tel geste, telle façon, il ne faut pas en déroger. Il faut aller jusqu'au bout. Cette capacité à se mobiliser sur des tâches même répétitives, oui, pour eux, c'est un travail. Si ce travail doit être fait comme ça, eh bien, il n'y a pas de souci. On s'y inscrit, on est dedans, cette répétition.
Voilà. J'insiste sur ce sujet. C'est vrai que la plupart d'entre nous serions incapables de faire leurs tâches qu'ils font, parce qu'ils font parfois effectivement des tâches très répétitives et c'est des choses qui leur conviennent. Hein, donc ce n'est pas une sous-tâche qu'on leur en confie, mais c'est des choses que, j'allais dire, presque seules, elles peuvent le faire dans le temps. Hein, donc ça, c'est important de savoir.
Oui, elles y adhèrent vraiment complètement et elles ont envie de le faire.
Alors, néanmoins, elles ont quand même quelques difficultés.
Elles ont des difficultés, eh ben, des fois, à comprendre et effectivement à intégrer ces consignes qui sont complexes. Alors, tout le travail va être de disséquer ces consignes. Ça, c'est le travail des animateurs qui vont être à décortiquer chaque tâche pour permettre petit à petit d'arriver à la consigne totale. L'autonomie sur la réalisation, oui, parce que là, sitôt que on va sortir un peu du champ et qu'il y a besoin d'autonomie, là, il y a besoin de d'être assuré. Ça, c'est important. Alors, des conséquences qui sont relatives à la difficulté à s'adapter au changement de poste. Alors, oui, tout changement nécessite vraiment l'accompagnement. On va vous le redire beaucoup. C'est de l'accompagnement, c'est de l'adaptation, parce que à chaque fois qu'on va changer d'atelier, de personne qui l'encadre, eh bien, tout ça a besoin d'être rassurant pour pouvoir vraiment s'intégrer. On sait qu'il faut du temps et de l'accompagnement. Le faible niveau de qualification. Alors, qualification, attention, dans le sens peut-être de la qualification qu'on a l'habitude d'avoir dans nos diplômes, dans nos... et la recherche qui est faite par bon nombre de nos associations aujourd'hui, c'est de qualifier des tâches. Et on n'est pas sur un registre d'avoir tel diplôme, mais c'est de valoriser ce que la personne est en capacité d'effectuer. Et c'est ça notre recherche de qualification. Quelqu'un qui sait très bien faire une tâche, et c'est aussi important que d'avoir parfois un diplôme qui n'est pas forcément en lien avec la tâche. La nécessité d'accompagner la gestion des trajets, du temps, des émotions, oui, parce que on voit bien que tout son environnement est important. Hein, socialement, il a besoin d'être complètement rassuré, de pouvoir être aidé dans ses déplacements ou de lui donner les éléments pour qu'il soit en autonomie par ça. Mais on voit bien aussi que s'il est embêté sur un problème familial ou de gestion de son logement, eh bien tout de suite il peut y avoir un peu de conséquences dans son travail. Alors ça, c'est les animateurs, les accompagnateurs sont formés à tout cela pour permettre justement d'alimenter et d'accompagner vraiment tout ce registre là. Donc, c'est, voilà, on en vient à la conclusion de ce besoin d'accompagnement personnalisé, qui est pour nous un élément moteur, qui ne se limite pas qu'au travail, mais vraiment dans ce qui fait sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on va s'immiscer dans tout ce qu'il fait, mais qu'il a besoin de repères pour pouvoir justement s'épanouir. Et puis les modes de compensation du handicap, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
Il y a des prestations particulières qui peuvent leur être délivrées pour justement tenir compte des difficultés. Je vais prendre un exemple par rapport à la question de la difficulté à gérer les changements, la question des trajets. Un exemple tout simple. Vous êtes une entreprise, vous recrutez une personne qui a un handicap mental, il va falloir l'accompagner à effectuer ses trajets dans un premier temps pour lui expliquer. Alors, par exemple, en région parisienne où les transports sont quand même un peu complexes, il va falloir l'accompagner à apprendre quelle ligne de métro, où est-ce qu'il faut qu'elle descende. Et s'il y a un problème dans le métro, on peut se retrouver en mode panique pour la personne. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on accompagne la personne à pouvoir anticiper. Qu'est-ce qui se passe si la ligne 1 du métro est fermée, où il y a un problème technique, quelles sont les autres solutions que tu peux prendre ? Il va falloir, comme nous tous d'ailleurs, on est tous, tous les ceux qui ne sont pas habitués au métro parisien, sont un peu en mode panique quand il y a une fermeture. Et les personnes handicapées mentales, ça va être la même chose, mais avec un accompagnement nécessaire à anticiper. Et il faudra, je prends cet exemple qui est simple, mais tous les changements non prévisibles dans l'entreprise, dans l'activité, et que va rencontrer la personne handicapée mentale, va être une source de perturbation forte pour la personne. Donc il faut accompagner l'environnement à ce que, en cas de changement dans l'environnement, on adapte, qu'on accompagne la personne pour qu'elle puisse y faire face.
On peut dire que d'ailleurs, notre sens au niveau de l'UNAPI notamment, c'est le sens de l'accessibilité, c'est justement au travers de cet accompagnement dans l'environnement, dans la vie réelle. Ça, pour nous, est une importance capitale.
Donc, il y a trois types d'accompagnement pour faire court. L'accompagnement humain, c'est celui qu'on a déjà décrit. Adapter le rythme de l'entreprise, de l'activité du travail, c'est effectivement tenir compte de la particularité de la personne, sachant qu'on vous dit les choses d'une manière générale. Mais comme nous tous, ceux qui ne sont pas handicapés ne sont pas tous pareils. Donc il faut évidemment prendre garde aux stéréotypes. Le trisomique, c'est ça. La personne X fragile, c'est ça. La personne qui a de l'autisme avec une déficience intellectuelle, c'est ça. Il n'y a pas un seul mode d'emploi. Il faut pouvoir s'adapter et c'est vraiment sur un accompagnement individualisé. Il y a des tendances qu'on vous a décrites. Il y a un point commun sur la déficience intellectuelle, c'est que les fonctions cognitives sont difficiles. Le développement des fonctions cognitives sont difficiles du fait de l'altération cérébrale. Mais on peut tout à fait arriver à développer des potentialités.
Oui. Vous avez des adultes en capacité de conduire des tondeuses autotractées sans problème, et puis vous en avez qui seront complètement en incapacité mais qui seront en capacité de faire un travail sur un atelier qui va être très, très rituel, très répétitif, mais il nous faut pour ça accompagner tout ce registre là parce que avoir des possibilités de travail dans tout ce domaine.
Donc c'est aussi, il y a des techniques pour les personnes handicapées qui sont au travail. On va décomposer les tâches, on va mettre des codes couleurs, des pictogrammes pour que la personne puisse bien se repérer dans l'entreprise, dans les AT, si elle est dans les AT. Bref, il y a un travail qui est fait. Donc nos associations font ce travail-là d'une mise en accessibilité tout simplement cognitive de l'environnement dans lequel les personnes handicapées évoluent. Donc ces personnes déficientes intellectuelles, elles peuvent intégrer les différents domaines, enfin les différents secteurs. Principalement, c'est en établissement et services d'aide par le travail qu'on va les retrouver. Vous avez un peu plus de 120 000 personnes handicapées qui sont en ESAT. 70% d'entre elles ont une déficience intellectuelle. Donc c'est d'ailleurs, l'UNAPI est à l'origine de la création de ce qu'on a appelé les CAT, mais c'est principalement là qu'on va les retrouver. Mais pas que. Hein. Elles sont aussi en entreprise adaptée, et pour une petite partie d'entre elles, ce qu'on appelle en milieu ordinaire, en entreprise classique, parfois même dans la fonction publique, mais c'est encore plus rare.
Le milieu ordinaire, il y a des exemples intéressants dans l'ensemble de nos associations, au travers d'ateliers qui sont transportés au sein des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement, je dirais, intégré et qui apporte justement l'expertise des professionnels, qui rassure les entreprises, parce que là, on va avoir des unités qui vont être relativement à la fois indépendantes, mais en relation avec l'ensemble de l'entreprise, et du personnel qui comprend, qui va faire le lien, qui va accompagner. Et je crois qu'il faut... nous, on a beaucoup d'expériences dans ce domaine-là qui sont très positives.
Alors, très rapidement, pour que vous sachiez les grandes lignes de l'ESAT et de l'EA, donc l'ESAT, l'ancien CAT qui est devenu l'établissement et services d'aide par le travail, et l'entreprise adaptée, donc... Deux structures totalement différentes sur le plan du fonctionnement administratif. L'ESAT est un établissement médico-social qui développe des activités professionnelles et un soutien, le soutien qu'on a évoqué tout à l'heure, médico-social, c'est-à-dire c'est la continuation des apprentissages parfois scolaires, tout simplement. C'est l'adaptation au poste de travail de manière très, très, très personnalisée. C'est le développement de compétences spécifiques parfois et vise à l'épanouissement professionnel par le travail. Donc c'est bien l'accompagnement par le travail. Et l'entreprise adaptée, elle, c'est une entreprise dite classique, enfin pas tout à fait classique, mais enfin c'est une entreprise du milieu ordinaire. Et là, pour le coup, les personnes qui travaillent sont des salariés qui sont totalement, qui sont beaucoup plus autonomes. Dans les ESAT, les travailleurs ne sont pas des salariés, alors que dans l'entreprise adaptée, ils sont salariés, hein, pleinement. Une des conditions pour accéder à l'ESAT, c'est pas je frappe à la porte de l'ESAT et je peux travailler dans l'ESAT, c'est une orientation d'une commission spécifique de la MDPH, de la Maison départementale des personnes handicapées. Et une des conditions pour pouvoir être admis, c'est d'avoir une capacité inférieure au tiers. Alors, la capacité inférieure au tiers, il n'y a pas encore eu tellement de baromètres, de thermomètres, de mètres pour définir c'est quoi le 3 tiers. Hein, votre tiers à moi, c'est pas mon tiers à lui. C'est très relatif. Donc, en tout cas, c'est une clé, c'est la clé d'entrée qui a été posée. C'est pour ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a des personnes en ESAT qui ont plus de difficultés, un handicap plus important qu'en entreprise adaptée. Ils ont un modèle économique qui est totalement différent. L'ESAT, il est financé pour toute la partie accompagnement par l'État et aussi pour une partie pour la rémunération des personnes handicapées, alors que l'entreprise adaptée, elle est financée que sur une partie, c'est ce qu'on appelle des aides au poste, c'est une subvention qui est accordée par l'État, par travailleurs d'ESAT. Bien entendu, c'est l'activité propre de l'entreprise adaptée et la partie propre de l'ESAT qui va permettre de financer l'appareil de production, les personnels d'encadrement de la production et les investissements de l'ESAT et de l'entreprise adaptée. Attendez, ce que je vous propose, je vous propose, on a bientôt fini et on vous laisse la parole. Donc, les activités des ESAT et des EA, c'est vraiment à peu près similaire. Hein, donc, c'est pas forcément le même public, mais elles interviennent dans les mêmes champs à peu près. Elles ont une production propre. C'est-à-dire qu'elles font des réalisations. Il y a par exemple des activités de production de vin, par exemple, mais il y en a plein. Hein. Vous pouvez les voir sur des ESAT qui exposent, ou de la sous-traitance industrielle, il y en a aussi des bonnes illustrations ici. Des prestations de services et des modes d'intervention totalement différents. Ça peut être soit un atelier spécifique de l'ESAT, soit l'ESAT qui va se transporter dans les murs d'une entreprise, ou aussi ça peut être la mise à disposition de travailleurs d'ESAT au sein d'une entreprise. L'avantage pour les entreprises, c'est que ça permet de satisfaire à l'obligation d'emploi à hauteur de 50%. Luc, peut-être vous parler des qualités, des atouts des ESAT et des EA qui accueillent ces personnes.
Oui, il ne faut pas vraiment avoir peur de la qualité. C'est même, disons, un des éléments vraiment importants qui est souligné dans l'ensemble de ces structures, la qualité de la prestation, vraiment l'adaptation, c'est un travail de tous les jours des encadrants, hein, et qui font preuve d'ingéniosité vraiment spectaculaire. Moi, je suis bluffé, hein, je suis chef d'entreprise d'une PME, et quand je vois comment on est en capacité d'adapter, il faut vraiment le voir. Compétitivité, oui, parce que on a des exemples vraiment importants qui montrent comme quoi il peut y avoir une compétitivité dans ce domaine-là. Co-construction avec les entreprises, c'est aussi un enjeu, à mon avis, important. J'ai cette sensibilité d'entreprise qui permet de dire que cette co-construction apporte aux uns et aux autres. Et je crois que dans ces politiques de RSE au jour d'aujourd'hui, ça a une valeur qui apporte du respect de chacun, du sens, hein, du sens à nos entreprises qui ne voient pas toujours le monde du travail comme quelque chose d'épanouissant. Or là, on a une population qui vraiment s'épanouit, est heureuse d'arriver au travail, qui est malheureuse quand elles ne peuvent pas y aller. Voilà.
Voilà. Mais écoutez, avant de passer à vos questions, juste un dernier mot. La personne handicapée mentale, c'est un des rares handicaps où vous ne pouvez pas mettre en situation de handicap mental. Hein, donc ça, c'est une difficulté que vous avez à vous représenter ce qu'est une personne handicapée mentale, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place d'une personne handicapée mentale. Donc c'est ce qui fait parfois peur. Sachez que le handicap mental, ce n'est pas dangereux. Hein, faut au moins déjà avoir ça comme idée bien en tête. On ne peut pas se mettre à la place d'une personne handicapée mentale. On peut faire des tests sur le handicap physique, on peut faire sur l'aveugle, sur le sourd, enfin bref, mais sur le handicap mental, vous ne pouvez pas. Donc ça, il faut que vous reteniez ça. Et quand vous intégrez une personne handicapée mentale dans l'entreprise, ça crée une dimension humaine, pour les entreprises qui l'ont fait, particulière, hein, pour l'ensemble de l'équipe. Donc ça, il faut vivre cette expérience. Voilà, on arrête là et on vous laisse poser vos questions.
Oui, bonjour à toutes et à tous. J'avais une question concernant le statut des personnes qui travaillent au sein d'un ESAT. Ils ne sont pas salariés, mais que sont-ils ?
Alors, ce qu'on appelle usagers d'un établissement médico-social. Alors, ça ne vous parle pas du tout, je suis sûr, mais c'est en fait un statut particulier. Comme dans d'autres établissements et services, ils ne sont pas salariés, ils ne travaillent pas forcément, d'ailleurs. Là, c'est la seule structure médico-sociale où il y a une activité professionnelle. Pourquoi, la question que je vois derrière, pourquoi ils n'ont pas le statut de salarié ? Eh bien, je vais vous dire, le statut de salarié, ça se saurait si c'était merveilleux. Hein, donc, on vit tous dans nos entreprises des difficultés. Le législateur a souhaité poser un statut protecteur. En gros, ça veut dire que ces personnes doivent avoir un accompagnement, elles ne peuvent pas être virées. Et elles ne sont pas soumises à une obligation de rentabilité, c'est ça. La rémunération est différente. Et ça, c'est probablement là ce sur quoi il faudra qu'on souhaite, nous, travailler une API. C'est effectivement, il y a une différence de rémunération et surtout de mode de rémunération. En gros, une personne handicapée qui est en ESAT a entre 80 et 110% du SMIC en fonction, mais avec différents modes de rémunération. Donc, c'est compliqué, ce n'est pas l'objet de l'atelier, mais c'est extrêmement complexe la manière dont une personne handicapée en ESAT perçoit des revenus.
Merci pour votre réponse.
D'autres questions ?
Oui, bonjour, Michel Couderet, directeur des AT2A à Montpellier, APEI. Une question ou une interrogation par rapport à ce que vous avez dit sur l'emploi des travailleurs en situation de handicap en entreprise et sur la qualité perçue, ce qu'attendent les entreprises, notamment sur fonds de politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez dit que ça intéresse les entreprises, que c'est une valeur ajoutée au-delà de l'aspect professionnel et technique, hein, technicité de la personne. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous d'autre ? Est-ce que ça réduit l'absentéisme ? Est-ce que ça encourage un climat social dans l'entreprise ? Est-ce que c'est... Vous avez un certain nombre de critères que vous avez pu identifier comme ça ? Est-ce qu'il y a des indicateurs là-dessus ? Parce que ça m'intéresse particulièrement.
Alors, malheureusement, enfin, à moins que Luc ait... En tout cas, on n'a pas posé effectivement d'indicateurs. C'est les retours d'expérience, effectivement, d'entreprises qui ont intégré dans leur entreprise des personnes handicapées. Il y a eu un accompagnement de l'entreprise, souvent par les AT. Hein, donc déjà, c'est déjà la connaissance de ce qu'est une personne handicapée. Et c'est vrai que ça donne parfois un peu d'humanité à un monde d'entreprise qui, parfois, hein, je ne vais pas dire toujours, mais parfois en manque. Et donc, de ce point de vue-là, ça crée une forme de cohésion d'une équipe au sein d'une entreprise pour bien l'intégrer. En gros, on vient expliquer ce que c'est qu'une personne handicapée, quelles sont ses difficultés. C'est comme ça qu'on va adapter le poste. Pour d'autres handicaps, on va faire différemment. Mais pour le handicap mental, on va adapter l'environnement, déjà faire comprendre à ses collègues ce que c'est qu'une personne handicapée mentale, quels sont ses besoins, quelles sont ses potentialités. Et on va accompagner l'entreprise. Et ça, ça donne une dimension humaine fondamentale. Luc, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, j'ai essayé de traduire le sens... et qui me paraissait important. Je crois que c'est le fruit des expériences diverses du terrain qui nous fait remonter ces expériences positives. Hein, et je crois que... Alors, peut-être que du côté de l'entreprise, peut-être on n'a pas eu suffisamment de retours. Hein, mais en interrogeant des chefs d'entreprise qui ont cette... qui ont opté pour cette pratique, ils l'ont découverte peu à peu. Hein, et ils en sont convaincus au jour d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous fait dire qu'il y a un chemin intéressant pour de part et d'autre. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui va devoir continuer et après mettre sans doute des éléments qu'on... je ne sais pas comment dire, mais je pense que derrière, il y a des valeurs qui vont se définir tranquillement. Quoi.
Oui, moi, j'ai deux questions sur l'intérêt financier des entreprises, de faire appel à l'ESAT et à une entreprise adaptée par rapport au fonds AGFI, parce qu'elle paye, il y a quand même l'intérêt financier peut être intéressant pour l'entreprise, et puis l'intérêt communication. Est-ce que la responsabilité sociale et environnementale, ça peut aller jusqu'à une certification ou jusqu'à enfin, un label enfin, est-ce qu'on peut valoriser, vous voyez, à la fois financièrement et à la fois en termes d'image à l'entreprise.
Alors, le recours aux ESAT et aux entreprises adaptées, déjà, c'est la première chose, c'est de satisfaire pour partie à l'obligation d'emploi. Et en contrepartie de cette obligation d'emploi, au lieu de payer ce qu'on appelle la contribution AGFIP, ben vous avez quand même en retour une prestation, un produit ou un service. Donc déjà, ça, c'est clairement, vous êtes quand vous avez recours à un prestataire classique, vous n'avez pas ce retour sur investissement. Après, la question de la certification dans la démarche, dans la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est vrai que ça devrait être intégré dans des référentiels. Ça ne l'est pas aujourd'hui, effectivement, qu'une entreprise, et ça c'est un travail à mener sur la RSE, sur la labellisation de la RSE, c'est effectivement le recours à l'ESAT et à l'EA, et d'une manière générale à l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Il y a certaines entreprises qui font plus que le fameux taux de 6%. Hein. Il faut le savoir. Il n'y a pas que des mauvais élèves, mais il y en a qui font plus. Madame, vous vouliez... Attendez, avec un micro, sinon on ne va pas vous entendre.
Peut-être que vous avez déjà connaissance de cette norme, mais AFNOR a publié une norme qui s'appelle la norme handi-accueillante, qui pour le coup ne donne pas lieu à un label ou une certification, qui permet de s'auto-déclarer entreprise en dit accueillante et qui, pour le coup, dispose d'exigences, donc un volet sur le recours au secteur adapté. Donc, par rapport à la question que vous posiez, monsieur, pour le coup, il existe quand même un cadre qui n'est pas aussi large que celui de la RSE, mais qui est très spécifique au handicap, qui permet de valoriser donc, et de communiquer sur le travail avec les établissements adaptés.
Eh bien, écoutez, je vous remercie, madame, et on me fait signe que c'est fini, donc voilà. On n'a plus le droit de parler. Et je vous remercie, en tout cas, nous, on vous remercie de votre attention.
Merci à vous toutes.